J'espère que vous avez tous pris la feuille qui est à l'entrée et qui vous donne la traduction dont je vais vous donner le commentaire. Alors, ça peut toujours être utile, disons. En tout cas, merci d'être venu. Et donc, cette année, je propose 4 conférences sur les hymnes que l'on trouve dans les épîtres de Saint Paul. Il y en a 4. La première, c'est celle d'aujourd'hui, qui est la plus fameuse peut-être, l'hymne à la charité, dans la première épître aux Corinthiens. Alors d'abord, quelques informations pour comprendre un peu ce texte. On admet généralement que la première épître aux Corinthiens est un texte cohérent. Ce n'est pas des petits morceaux qui auront été rassemblés comme dans d'autres livres bibliques, même s'il n'est pas impossible qu'il y ait un texte ou l'autre qui vient d'une épître aux Corinthiens qui n'a pas été transmise. Voilà. Et on considère aussi que cette épître a été écrite un peu avant Pâques. Nous sommes un peu avant Pâques, parce qu'il y a une allusion à la fête de Pâques, au pain azyme, par exemple. C'est le cas concret. Si bien qu'on pense qu'elle a été envoyée pour la fête de Pâques, depuis Éphèse, ou en Turquie, où Saint Paul se trouvait déjà depuis quelques années, après avoir passé un an et demi, peut-être un peu plus, à Corinthe, qui est dans la partie sud de la Grèce, où il aura passé un an et demi et il y est allé après un discours à Athènes que nous avons dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, où Paul espérait se faire entendre par les autorités culturelles d'Athènes, et ça a été un échec complet. À ce moment-là, il s'est rendu compte que ça ne servait à rien de parler de littérature, de philosophie, il fallait prêcher la croix du Christ, point. Et c'est ça qu'il a fait à Athènes, qu'il a fait à Corinthe, pardon. Alors en fait, cette épître, c'est un résumé de ce que Paul a trouvé à Corinthe. D'abord quand il y était peut-être, mais surtout, il est maintenant très frappé par des contacts qu'il a eus de gens de Corinthe qui sont venus à Éphèse lui dire qu'il y avait de sérieux problèmes dans la communauté. Vous savez, ça en 57, c'est moins de 60 ans, c'est moins de 40 ans après la résurrection du Christ. Et les problèmes sont exactement ceux que nous connaissons dans nos communautés. Les divisions, les haines, les partis. Et puis les scandales sexuels, sur lesquels il y a quand même 2 gros chapitres. Prenez une feuille, monsieur. Et donc, Paul va faire allusion dans cet hymne aux Corinthiens à ces misères de la communauté de Corinthe. Et en particulier sur des questions même de culte. La viande consacrée aux idoles, par exemple, un problème sur la tenue des femmes, et c'est ici qu'il y a 2 positions dans le texte, où manifestement il y en a une qui est rapportée d'un texte perdu, sur la façon de se préparer à la célébration de l'Eucharistie dans les maisons de Corinthe, et puis sur la question du charisme. Et alors Paul nous dit, la clé, c'est fondamentalement l'agapé, comme il l'écrit en grec, je vous en parlerai dans un instant, c'est-à-dire la charité. Vous pouvez employer le mot amour, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais en français il est devenu tellement ambigu qu'il vaut mieux prendre le terme charité, la foi, l'espérance et la charité. Et je vous dirai aussi pourquoi. Et alors le contexte, c'est dans le verset précédent, puisqu'il y a des charismes qui se sont développés dans la communauté, en partie la glossolalie, se mettre à parler comme les anges. Ce qu'on a essayé de refaire, paraît-il, dans certains endroits, après Vatican II, mais c'est un peu foiré, bien entendu. Mais je vous propose, dit Paul, une voie plus sûre. Et le mot « voie », c'est intéressant parce que c'est un terme très fort. Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas un sentier, c'est comme les grandes voies romaines. C'est-à-dire ce sont des chemins qui mènent très loin et qui sont en général pavés. Les Romains savaient construire, si bien qu'on retrouve encore aujourd'hui les traces et parfois même les voies romaines, on les retrouve à travers toute l'Europe. Et donc ce que Paul propose, c'est une voie, c'est-à-dire quelque chose qui suppose une marche. Et en plus, c'est large. Et de fait, le concept de la charité, c'est un concept qui n'est pas étroit pour un sou. Au contraire, il est polyvalent. On le verra dans le texte même de Paul. Et puis, ça rappelle quand même aussi l'Exode. Les voies du Seigneur, c'est une expression qu'on trouve très souvent d'ailleurs dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi la voie qui conduit le Christ à Jérusalem et à la Passion et à la Croix. C'est la voie. Tant et si bien que dans les Actes des Apôtres, vous avez plusieurs fois une sorte de, je ne dis pas une définition, mais une appellation du christianisme, à savoir la voie, la route. Voilà. Bien, la charité, c'est une voie parfaite. Ce n'est pas qu'elle conduit nécessairement ou qu'elle donne immédiatement la perfection, mais celui qui prend cette voie, il prend un chemin. Il n'y a pas de meilleur chemin que celui-là. C'est une voie parfaite. Elle ne vous donne pas la perfection, mais elle vous y conduit. Sans oublier, bien entendu, que marcher, c'est toujours un progrès. Marcher, c'est le temps, c'est la patience. Voilà au moins pour quelques orientations. Et je vous lis à présent le texte en entier que vous avez dans votre feuille. J'aurais beau parler les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un cuivre bruyant ou une cymbale retentissante. J'aurais beau avoir la prophétie, connaître tous les mystères et tout le savoir. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer tous mes biens et livrer mon corps par fierté, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est longanime, la charité rend service. La charité ne jalouse pas, elle ne se vante pas, ne se gonfle pas, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas la rancune. Elle ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Au contraire, elle prend part à la joie pour la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité jamais ne tombe, mais les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car en partie connaissons-nous et en partie prophétisons-nous. Mais quand viendra le parfait, ce qui est en partie sera aboli. Alors un exemple, Quand j'étais un tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je réfléchissais comme un tout petit. Quand je devins un homme, j'ai aboli tout ce qui était du tout petit. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeure la foi, l'espérance, la charité, ces trois-là, mais de celles-ci, plus grande est la charité. Alors, au niveau du texte, il y a plusieurs possibilités. Tous les exégètes cherchent comment organiser ce texte. Moi, je vous propose, et je ne suis pas le premier dans cette solution, je vous propose trois parties. Sur la première page, vous avez un et deux, puis la troisième sur le verso. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a d'une façon ternaire en trois. Et ça, certainement, la première partie, c'est certainement comme ça qu'elle est organisée. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité. Et alors, comme la seconde partie, le verset 2, eh bien, est le plus long par rapport au verset 1 et au verset 3, eh bien, il est pensable que les parties suivantes fonctionnent de la même façon. Et de fait, la seconde partie, la charité, est longanime, elle rend service ou elle est aimable, si vous voulez, c'est très court. Et vous retrouvez du positif au verset 7, l'excuse tout, pardonne tout, crois tout, etc. Et au centre, vous avez tout le négatif. Sauf la dernière phrase, mais j'y reviendrai. Et de même, dans la troisième partie, là, c'est plus souple, probablement. Mais regardez que le mot charité devient en tête au verset 8, et puis à la finale du verset 13. Et si vous regardez où se trouvent les mots de charité, vous voyez qu'ils sont quand même mis à des postes tout à fait caractéristiques au point de vue. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un texte qui est écrit un peu à la va-vite, c'est un texte pensé. Et par conséquent, quand on le lit, il ne faut pas le lire comme on lit les titres de journaux, puis on s'en va. Non, non, c'est un texte qui est très concentré. Alors, un mot d'ailleurs sur le mot charité, le mot agapé en grec. C'est une curiosité, ce mot-là, parce que il y a un verbe agapao, aimer, et il y a un substantif qui est aussi l'amour, agapesis, qui sont des termes qui sont connus déjà depuis Homère, c'est-à-dire depuis le 7e siècle avant notre ère. Voilà. La chose la plus curieuse, c'est que le mot agapé n'apparaît qu'au 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire pratiquement 400 ans après Homère. Le mot agapé n'a jamais été employé par les auteurs classiques, que ce soit les tragiques grecs, Eschyle, Sophocle, ou les philosophes comme Platon, Aristote, il n'a jamais été employé. Il a été employé principalement, sinon exclusivement, en grec tardif, qu'on appelle la koiné, la langue commune, ce qui est l'anglais d'aujourd'hui, et encore uniquement dans un monde juif, essentiellement monde juif. Et on a essayé de montrer qu'on le trouvait également dans des papyrus. Quand on va vérifier sur le papyrus, c'est plus hypothétique qu'affirmatif. On ne voit pas même le mot. Donc agapé, c'est un mot finalement biblique, grec et Nouveau Testament. Et puis vous le retrouvez chez les pères de l'Église. Oui. Alors maintenant, l'agapé, c'est une formule, c'est un mot qui signifie essentiellement un acte de bienveillance de la part de celui qui est plutôt en haut vis-à-vis de celui qui est en bas. Dans la Bible grecque, le mot s'emploie principalement dans le Cantique des Cantiques. Mais dans La Bible, en général, et ça vient plutôt du monde hébraïque, la Bible hébraïque alors, le mot amour ou le mot charité, c'est quelque chose qui est réciproque et qui n'est pas, et ceci est très important, je pense, parce qu'il y a eu des erreurs colossales qu'on a faites dans les 30 dernières années. La charité ou l'amour n'est pas d'abord une attitude affective. Ce n'est pas de l'affection, c'est de l'engagement. Et par conséquent, vous aurez par exemple, déjà dans le monde sémitique ambiant, depuis le 12e, 13e siècle, peut-être même avant, le 15e siècle avant notre ère, quand vous aviez des suzerains et un suzerain et des vassaux, eh bien, c'est le vassal qui affirme son amour vis-à-vis du suzerain. Ce n'est pas qu'il raffole de lui, c'est un engagement. Donc, la charité est essentiellement un engagement vis-à-vis d'une personne. On s'engage vis-à-vis de lui. Et je pense que nous devons garder cette formule-là. Là où on a absolument déraillé, et ça, c'est dans les années 70, donc il y a 50 ans quand même. Là, à ce moment-là, on parlait d'amour, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de l'amitié entre David et Jonathan, où on voyait évidemment du sexuel. Mais c'est idiot. C'est idiot. C'est transférer notre culture sur une autre, sans voir que l'autre culture ne parle pas de ça. Elle parle d'un engagement fidèle, c'est tout. Et je pense que dans le mariage, encore aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est l'engagement dans la fidélité. C'est ça le point. Et ça, on a dans le texte du monde sémitique, on a ça depuis 15 siècles avant notre ère. Et c'est resté dans l'Église, c'est resté dans notre culture aussi. La théologie de l'amour, on l'a surtout dans l'évangile de Saint Jean, Dieu est amour. Mais Dieu est amour, ça veut dire qu'il s'engage. Et c'est sûr comme engagement de Dieu vis-à-vis de nous qui sommes les inférieurs. Mais également la réciprocité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Lévitique au chapitre 19, où on trouve aussi cette formule, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Puisque toi-même tu as été étranger. On ne vous dit pas ça souvent. Hein. Et puis, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire un amour de dévouement jusqu'à la mort. Ça, c'est pour la théologie de Saint Jean. Mais l'amour du Christ, il a été versé dans nos cœurs. C'est une grâce que nous avons reçue. Et l'amour du prochain ou l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, il l'a été par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Voilà, au moins une première introduction, si vous voulez, au thème général et à l'orientation de ce chapitre-là. Ce que je voudrais refaire avec vous, c'est relire ces textes. Alors, je prends section par section. D'abord, la première. On part d'abord d'une hypothèse. La formule j'ai beau parler, c'est la nouvelle traduction liturgique, elle est excellente comme traduction à ce point-là. Et donc, une hypothèse. J'aurais beau parler les langues des hommes et des anges. Ça, c'est la glossolalie que l'on pratiquait et dont parle Paul, précisément dans le chapitre qui précède, au chapitre 12, c'est sur la glossolalie. Et j'aurais beau parler toutes ces langues, un peu charismatiques par conséquent, mais si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je ne pratique pas cet engagement fidèle de moi-même vis-à-vis d'autrui, eh bien je fais beaucoup de bruit. Je suis un cuivre bruyant, une cymbale retentissante, certains traduisent aussi par le gong qui fait un chœil bête. On ne sait pas parler ici, il y a le gong. Non seulement le charismatique, mais également un autre type de charisme, c'est j'aurais beau avoir la prophétie, c'est-à-dire être prophète, c'est-à-dire être témoin. Ce n'est pas annoncer l'avenir, hein, la prophétie, c'est être témoin de Dieu. Si je suis prophète, et même que je connais tous les mystères par expérience, connaître par expérience, c'est-à-dire le mystère de Dieu. Vous savez, Paul, il sait bien quelque chose de ça. Et si j'en avais tout le savoir, la cohérence des mystères, l'unité dans la foi, l'unité des mystères dans la foi chrétienne, puisque c'est saint Paul. J'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Alors ceci, c'est curieux, parce que c'est un texte évangélique. Or, les textes évangéliques ne vont paraître que 20 ans après. Donc ici, comme un autre passage d'ailleurs sur l'ouvrier qui a droit à son salaire, ce sont des textes évangéliques qui ont circulé avant qu'ils ne soient rédigés sous forme des évangiles que nous avons. C'est très connu et c'est reconnaissable encore aujourd'hui. Voilà. J'aurai même toute la foi, c'est-à-dire j'aurai suffisamment de confiance en Dieu. Ce n'est pas une foi abstraite, hein. C'est la confiance essentiellement. J'aurai une telle confiance que si je dis à une cette montagne, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Marc, c'est au chapitre 11, au verset 22. Une fois jusqu'à transporter les montagnes, et Paul connaît ça déjà. Eh bien, si je n'ai pas la charité, cette fois-ci je ne suis rien, c'est dans mon être. La première, c'était je fais beaucoup de tapage, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a du contenu, hein. Mais ici, je ne suis rien. C'est dans mon être. Donc, autrement dit, vous auriez beau être un grand théologien, vous auriez beau être un témoin extraordinaire de la confiance en Dieu qui vous fait traverser des épreuves énormes. Mais si vous manque la charité, c'est-à-dire le don de vous-même et aux autres, et à Dieu dans la fidélité, eh bien, c'est vous n'êtes rien, je ne suis rien. Et Paul se met toujours en première personne, c'est moi. Et la troisième, j'aurais beau distribuer tous mes biens, livrer mon corps par fierté. Il y a d'autres versions, mais malgré vos Bibles, depuis lors, on sait très bien, et c'est généralement accepté, que ce n'est pas livrer mon corps aux flammes, non, c'est pas un suicide par les flammes, non, c'est distribuer tous mes biens et engager jusqu'à perdre ma santé à servir les autres, et tout ça parce que c'est beau quand même qu'on dise que c'est un homme qui est tellement dévoué qu'il en est mort. Et non, ça va. Eh bien, si c'est comme ça, si je n'ai pas la charité, si je fais ça simplement pour qu'on m'admire, eh bien, ça ne me sert à rien. Eh bien, parce que à un certain moment, dans un certain nombre de manuscrits, on a trouvé la formule les plus communs, ceux qui ont servi à des éditions, comment dirais-je, les éditions simples avant l'étude des manuscrits, et en particulier des manuscrits que l'on a retrouvés au XXe siècle, et qui sont des manuscrits des évangiles, de Paul, etc., et qui sont du IIIe siècle, alors que les éditions que nous avons, Les grands manuscrits sont du 4e et du 5e. Voilà. Or, il se fait qu'on a trouvé dans le papyrus 46, qui est du 3e siècle, on a trouvé par fierté et pas aux flammes. Et dans les meilleurs manuscrits, c'est encore comme ça. Voilà. Peut-être que c'est même le latin qui nous a trompés. Voilà. Mais c'est le seul cas ici dans le chapitre. Mais il y a beaucoup de cas où on discute, évidemment. La deuxième partie est peut-être plus complexe. C'est le chapitre 4, pardon, le verset 4 au verset 7. Cela commence par une... Essentiellement, cette fois-ci, c'est la charité, donc il n'est plus question de Paul. Et la question est positive au début et à la fin, et négative au centre. Alors, le positif, en fait, c'est une citation de la définition même du Seigneur au Sinaï, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, au verset 6, dans les versions grecques qui sont connues. C'est la longanimité, ou disons un grand cœur, la charité. Alors, d'une certaine façon, elle est personnalisée, comme vous voyez. Ce n'est plus un objet, c'est la charité. Elle se personnalise. Et ça va être comme ça jusqu'au bout du chapitre. Et la grand cœur est en même temps elle rend service, ou plutôt, on peut traduire aussi qu'elle est aimable. Alors, par parenthèse, je vous signale que ce mot grec, c'était Christos. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque, on disait Christos. Et vous voyez le jeu de mots entre Jésus et Christos. Le Seigneur est bon, mais le Christ est Christos. Le Christ est Christos. Il y a tout un jeu de mots qui est extraordinaire là-dedans. Mais ici, ça vient du Sinaï. Donc, c'est la définition même que Dieu se donne. Voilà. Et par conséquent, alors c'est ici qui est très curieux, vous savez. Je vais vous donner un certain nombre de passages, mais Paul ici reprend ce qu'il a reproché aux Corinthiens dans les chapitres précédents. Par exemple, la charité ne jalouse pas. Bien, au chapitre 3, au verset 3, nous lisons ceci. Vous êtes encore charnels, du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute. N'êtes-vous pas charnels? Et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? La charité ne se vante pas et ne se gonfle pas. Au chapitre 4, au verset 18, dans la pensée que je ne viendrai pas chez vous, certains se sont gonflés d'orgueil, mais je viendrai, et bientôt chez vous, s'il plaît au Seigneur. Et je jugerai alors non des paroles de ces gonflés d'orgueil, mais de leur puissance, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et un peu plus loin, quand j'entends parler d'inconduite, et c'est le suivant, ne fais rien d'inconvenant. L'inconvenant, c'est tout le désordre sexuel, vraiment sexuel, et à la communauté de Corinthe, on entend parler que d'inconduite chez vous et d'une inconduite telle qu'il n'en existe même pas chez les Romains. De fait, c'était interdit par les lois romaines. C'est l'inceste dans ce cas-là. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Vous êtes gonflé d'orgueil et vous trouvez ça très bien, vous. Elle ne se gonfle pas. Et autrement dit, ce que je veux vous montrer, c'est que Paul n'est pas dans l'abstrait. Il part sur une expérience dont il a parlé vertement et clairement aux Corinthiens. Faites attention quand vous lisez l'Écriture, n'en faites pas quelque chose d'abstrait, parce que ça vous trompe. Essayez d'être le plus concret, le plus chosiste qu'il y a moyen. Vous rencontrerez l'Écriture, et vous la rencontrerez dans votre vie aussi, parce que c'est concret ça. Elle ne cherche pas son intérêt. Bon, d'autres textes sont du même ordre, vous savez. Elle ne cherche pas son intérêt. Au chapitre 10, verset 4, nous avons ceci. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et le rocher, c'est le Christ. Mais alors, au verset 24, vous avez cette formule. Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, dites-vous, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt. Nous y sommes, vous voyez, ni celui d'autrui, mais celui d'autrui, pardon, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas la rancune, encore d'autres textes que l'on trouve dans les environs. Et puis cette formule complète, alors positive, négative et puis positive, la charité ne se réjouit pas de ce qui est injuste, parce que quand même se réjouir de l'injustice, c'est de la méchanceté, hein. C'est de la méchanceté pure et simple. Mais elle prend part à la joie pour la vérité. Je dis prend part à la joie parce qu'en grec, si vous connaissez un peu de grec, c'est syn kairo. Kairo, c'est se réjouir. Et le syn prend en part. on est ensemble quand on se réjouit de la vérité. Et donc, vous voyez, il y a 7 formules négatives, et elles se terminent par le positif, c'est-à-dire c'est toujours le positif qui l'emporte. Et en fait, le verset 7, par 4 fois, il est dit, la charité couvre tout, elle excuse ou elle couvre tout, c'est-à-dire laisse tomber, quoi. Ce qui va revenir après, comme formule. Elle croit tout, non pas la foi, mais « Oh, je crois ce que tu me dis, je ne vais pas enquêter, quoi. J'espère bien que ça va, que c'était vrai. » Et puis elle supporte tout. Alors, entre couvrir et supporter, il y a une similitude. Autrement dit, il y a beaucoup de vertus dans la pratique de la charité. Et la troisième partie, alors, est plus complexe encore parce qu'elle va nous conduire à quelque chose qui est beaucoup plus théologique. Et on a l'impression que Paul, ici, il monte encore. La charité jamais ne tombe, c'est piptein. Jamais ne tombe. Alors pour la facilité, je dis ça tombe à l'eau, mais comme nous disons, ça tombe bien, mais nous employons aussi des formules où le verbe tomber signifie laisse tomber, celui-là précisément. Jamais. La charité, ça ne disparaît pas finalement. Ce que vous allez retrouver, la dernière phrase, maintenant donc demeure, mais de ces trois-là, la charité encore. Donc la charité, finalement, elle est perpétuelle. Les prophéties, elles sont abolies. Les langues des hommes, des anges, ça cessera. La connaissance, elle sera abolie. Tout simplement parce que nous ne connaissons qu'en partie. Et nous prophétisons, c'est-à-dire Nous sommes les témoins de la foi et l'explication de la foi. C'est les théologiens qui sont derrière, ce n'est pas du tout les prophètes Isaïe, c'est plutôt ceux qui rendent compte de la foi chrétienne. Paul dans ses épîtres, par exemple, vous voyez. Eh bien, même cela disparaîtra. Parce que quand viendra ce qui est parfait, eh bien, ce qui est partiel sera aboli. Alors vous voyez, il y a un jeu qui est intéressant. Ici, j'ai souligné en rouge, prophétie, langue et connaissance. C'est ce qu'on avait dans la première partie, tout au début. Vous aviez les formules, j'aurais beau parler les langues, j'aurais beau avoir la prophétie, connaître tous les mystères et tout le savoir. Mais vous retrouvez ici, prophétie, langue et la connaissance. Et puis dans le verset 9, la chose la plus étonnante, c'est que les langues ont disparu. Qui était dans le chapitre précédent, au chapitre 12. Parce que Paul n'y croit pas. Oui. Je ne sais pas ce qu'il nous a pris à ma génération, après Vatican II, de recommencer à croire à la glossolalie. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Enfin, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, si, on a compris et c'est un peu tombé à l'eau, tout ça. Oui. Mais vous voyez, Paul il n'y croit pas. C'est à propos de la glossolalie, précisément, qu'il introduit une voie beaucoup plus sûre qui est la charité. Voilà. Ça, c'est réaliste et c'est concret dans la vie communautaire des chrétiens. Et vous voyez, il joue sur les mots l'abolition, je l'ai souligné trois fois, ce qui est partiel, la connaissance, la prophétie, et bref, tout ce qui est partiel disparaîtra. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ce qu'il va expliquer à partir du verset 12. Mais entre-temps, il remploie une formule étonnante. C'est un peu pour expliquer, quand j'étais un tout petit, c'est népios en grec. Ah, ça c'est violent, parce que regardez, il emploie ce mot-là au début du chapitre 3 de son épître. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non pas une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter, mais vous ne la supportez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnel. Oui. C'est-à-dire, évidemment, les éléments spirituels. Vous savez que tout le développement de la charité qui nous fait là, c'est, ça monte. Hein. Et alors, il reprend, mais vous êtes des népios, vous êtes des tout-petits. Ce n'est pas seulement des enfants. Donc, vous savez que le mot enfant, infans, c'est celui qui ne peut pas parler. Le mot népios, on ne sait pas d'où vient ce mot, mais c'est le bébé. C'est celui qu'on nourrit au lait. Le lait maternel ou le lait de la vache, évidemment. Et donc, c'est celui qui n'est pas encore capable de mâcher. Donc, c'est vraiment un tout petit. Voilà. Et Paul se dit, ben, vous l'êtes. Mais moi, quand j'étais petit, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit, je réfléchissais. C'est assez amusant. J'ai vu un jour à Luxembourg, un tout petit, il avait quoi ? À mon avis, il avait 1 an et demi. Oui. Et il avait découvert une chose assez extraordinaire. Que il y avait quelque chose, il était sur les chaises de petits-enfants, une chaise un peu plus haute, là, avec un plateau devant. Et il y a quelque chose qui était tombé, qui avait rebondi. Et alors, il prenait une autre affaire, il voyait si ça rebondissait ou dit. Autrement dit, il est en train de découvrir ce que Galilée avait répondu. Alors, il fléchissait comme un tout petit. Mais il ne parlait pas encore, ce gosse-là. C'était beau comme tout, ça. Mais quand je devins un homme, j'ai aboli. Voilà, vous le retrouvez. J'ai aboli en moi tout ce qui était petit. Alors, en français, on dirait bien aux Corinthiens, à bon entendeur, salut, vous qui êtes encore des tout petits, qui n'étiez pas capables de supporter une nourriture solide, eh bien, je viens de vous la donner. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que, à présent, nous voyons dans un mystère et en énigme, mais alors, quand arrivera ce qui est parfait, c'est face à face. Alors là, c'est une citation, je n'ai pas pris ma Bible avec moi, c'est une citation du livre des Nombres, au chapitre 12, verset 8, la différence qu'il y a entre Moïse et tous ceux qui se disputent avec Moïse, Myriam, Aaron, etc. Parce que le Seigneur dit lui-même au verset 8, Nombre chapitre 12, je ne lui parle pas en énigme, mais face à face. Et donc, à présent, c'est l'énigme. Dans un miroir. Mais vous savez, aujourd'hui, nos miroirs sont peut-être très forts, mais dans l'Antiquité, les miroirs étaient quand même nettement moins clairs, et donc une certaine obscurité. Voilà. Mais alors, quand arrivera ce qui est parfait, ce sera face à face. Et dans le livre des Nombres, c'est le Seigneur lui-même qui dit « Je parle à Moïse face à face ». C'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas Moïse qui dit « Je vois le Seigneur face à face ». Non, non, c'est l'inverse. Hein. À présent, je connais en partie, voilà le « en partie » qui revient de la première phrase, « mais alors je connaîtrai comme je suis connu ». C'est-à-dire, c'est Dieu même qui me dira qui je suis. Je me trouverai dans la vérité parce que c'est lui qui me révélera moi-même. Ben, c'est ce que nous attendons dans notre espérance de l'au-delà, notre rencontre avec le Seigneur, même si nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne croient plus à rien au-delà de la mort, hein, d'où les problèmes que vous connaissez au niveau politique, parlement, président, etc. Voilà. Mais l'espérance et la foi dans l'au-delà, c'est viscéral dans le monde ancien et dans toutes les générations qui nous précèdent. Nous sommes en train de détruire, une partie de notre société est en train de détruire ce que les Égyptiens avaient trouvé au 7e siècle avant notre ère, ce que les Hébreux avaient accepté au deuxième siècle avant notre ère et que les chrétiens ont toujours accepté. Terminer notre vie, c'est pour passer dans l'au-delà, dans la rencontre du Seigneur. Et Paul vit de cela, il y aura d'ailleurs tout un chapitre dans l'épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 15, sur précisément l'au-delà, la rencontre avec le Seigneur. Je connaîtrai comme je suis connu. C'est pas moi qui ferai la connaissance de Dieu, c'est Dieu qui se révélera. Le face à face. Et c'est là que je commencerai à comprendre qui je suis. En attendant, ce n'est que très partiel, la connaissance que j'ai de moi et des choses et du monde. Ce sera l'époque du parfait. Et vous avez vu qu'il y a dans ce verset 12, par deux fois, l'opposition entre présent et alors, à présent, mais alors. Et en fait, il termine toujours avec la même opposition. Maintenant donc, demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois-là. Mais de celle-ci, plus grande est la charité. Je n'ose pas traduire par la plus grande parce que ce n'est pas un superlatif, c'est un comparatif. Par rapport aux deux autres, la charité les dépasse. Mais les autres ont leur valeur, bien sûr, la foi et l'espérance. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, je terminerai par quelques considérations plus générales, si vous voulez. Dans la première partie, il me semble que la façon dont Paul parle en première personne, le « je », que l'on retrouve d'ailleurs, voyez, dans la troisième partie au milieu, j'étais un tout petit, où Paul est... Il nous parle de la condition de la personne humaine qui cherche à avoir du sens, qui cherche à être et qui souhaite surtout être apprécié de Dieu. Cela ne me sert à rien donc, pour me trouver devant Dieu. Vous savez, pour nous autres, quand même, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que nous accomplissons des actes de charité, puisque le mot est ambigu. La charité, vous savez, a été employée dans le monde chrétien aussi pour l'aumône. Oui. Dans la Bible, et encore aujourd'hui en hébreu à Jérusalem, quelqu'un qui demande l'aumône, il dit « tzedaka ». Justice, s'il vous plaît, tzedaka bevakasha, tzedaka. Voilà, la justice. Pourquoi ? Ben pourquoi est-ce que nous sommes riches et pourquoi il est pauvre ? Trouvez ça juste, vous. Voilà, c'est très concret. Hein. Oui. Peut-être que c'est préférable d'ailleurs de dire justice plutôt que charité. Oui. Mais de toute façon, on sent bien que l'amour qui est là et qui nous est donné, qui nous est proposé, c'est quelque chose qui dépasse, y compris les... ces vertus d'entre gens que nous pouvons pratiquer. Dans la seconde partie, je pense que, surtout les parties négatives qui sont là, il y a ce qu'on appelle des fonctions performatives qui seraient probablement au service même de peut-être du prophétisme, des manifestations de soi, des réactions négatives, une inhibition d'actions négatives. Ce qu'on nous demande, évidemment, c'est que le « je » qui est chez moi dans la première partie ne nuise pas à l'autre. En fait, l'agapé, la charité, l'amour, transforme le « je » de moi de telle façon que mon penchant naturel se trouve d'une certaine façon redressé. Et comme ce sont toujours des actions, jalousie, vantardise, inconvenance, chercher son intérêt, C'est une action profondément transformante de l'agapé. Nous sommes toujours tentés dans le repli sur nous-mêmes. C'est ça la difficulté. Et enfin, dans la troisième section, il y a à la fois différents codes littéraires qui sont employés. Il y a le code existentiel, ce qui est et ce qui demeure, la charité, elle ne tombe pas. La foi et l'espérance, comme la charité, demeurent, ici-bas, bien entendu. À côté de ce code-là, il y a le code temporel, il y a le maintenant, que nous sommes sur terre, et puis le alors. Et le alors, c'est au-delà de notre décès, au-delà de notre mort à chacun. Doublé du spatial, parce qu'il y a ici-bas et là-haut. Là-haut, c'est l'image qu'on en avait dans l'Antiquité, bien sûr que le Seigneur habitait au-delà de la voûte céleste. On a tenu ça jusque pratiquement au XVe siècle. La voûte céleste, jusqu'au jour où on a découvert quand même que le ciel, c'était autre chose, quoi. Il y a le code qualitatif, ce qui est parfait, et donc ce qui ne l'est pas. Il y a le code quantitatif, c'est en partie ou en totalité. Le parfait, c'est davantage qualitatif, mais le partiel, c'est de l'ordre quantitatif. Et peut-être il y a surtout le passage du devenir à l'être. On devient et on s'en va vers être. Et être, c'est aussi être connu, c'est-à-dire se connaître parce qu'on est connu. Et d'une certaine façon, c'est une voie vers ce qui est de l'ordre de l'être et du parfait. Le mot est là, le parfait même. Autrement dit, l'agapé, la charité, elle assure la croissance. Elle enlève tout ce qui est étroit, tout ce qui est partiel, tout ce qui est trop ici-bas. Au fond, elle nous élève. Et puis elle rend la vie, et surtout la vie sociale, c'est la seconde partie, la vie communautaire et la vie sociale dans son sens le plus fort, à savoir le respect de l'autre et l'humilité de chacun. Ce qui est parfait, ce qui est stable, ce qui est définitif. Voilà ce que je voulais vous proposer ce soir. Alors si vous voulez, nous arrêtons 3-4 minutes et puis comme ça, nous aurons un échange pour autant que vous le souhaitez. Merci à vous. Vous voulez déjà intervenir ? Ah oui, allez-y.
Les 3 minutes ne sont pas passées.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Non, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse réagir et discuter, si vous voulez.
Donc, vous allez nous proposer 3 autres hymnes.
Oui.
Pourquoi l'avoir isolé comme hymne ? Depuis quand est-elle isolée comme hymne ? Est-ce que c'est un texte qui a une forme d'autonomie ? Ou est-ce que c'est un effet de sa beauté, de sa densité, qui fait qu'on le considère pour lui-même ?
Alors, je vais répondre un peu question par question, parce que si on les mélange tous, ça va être compliqué, je risque d'oublier des éléments. Et puis, d'abord, je pense qu'il y a une façon d'écrire qui est propre à ces hymnes-là, que vous retrouvez, par exemple, dans le prologue de l'évangile de Jean. Voilà. Et manifestement, ce n'est pas de la prose. C'est pas non plus la poésie hébraïque que l'on a dans le psautier, par exemple, vous voyez. Mais dans la Bible hébraïque, nous avons aussi de la poésie, ou ce qu'on appelle même en français, on parle de ça, de la prose rythmée. La façon d'écrire de Paul Claudel, de ce point de vue, et de Charles Péguy était typique de ce point de vue-là. Ce n'est pas de la prose que Claudel écrivait, ce n'est pas de la prose. Non. Mais ce n'est pas la poésie classique, l'alexandrin, ou le vers de 11 pieds, par exemple, chez Verlaine, ou bien de 8 pieds chez Musset et d'autres. Voilà. Et que vous retrouvez encore dans la poésie la plus classique que vous retrouviez aujourd'hui. Mais ici, on se retrouve dans quelque chose qui est de l'ordre de la poésie. Or, la poésie, c'est le lieu même où s'exprime dans le monde ancien la pensée. Essentiellement, dans la Bible en tout cas, le cas le plus typique, si vous voulez, c'est dans la forme classique, c'est Job, et dans la forme d'un vers libre, comme on dit aussi, la prose rythmée, c'est Coëlette. C'est Coëlette, c'est de la philosophie, ça, hein. Voilà. Et autrement dit, c'est une pensée de recherche, un effort de toucher le mystère, puisque c'est ça qui est derrière, à peu près partout, chez Job comme chez Coëlette et les autres, hein, même le Cantique des Cantiques, même s'il est plus classique celui-là. C'est une approche du mystère. Et on ne peut le faire que par le biais de la poésie. Ça, je pense que tous les poètes vont le reconnaître. Ce n'est pas du roman. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est toucher au mystère, et là, ça nous dépasse, comme la poésie nous dépasse. Et comme le poète se sent toujours dépassé par la poésie qu'il habite et qu'il dit. Vous voyez ? Oui, 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 probablement comme ça, oui, 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 vous devez avoir ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette expérience qui n'est pas morte, elle existe, cette expérience. Voilà. Oui. Et donc, les quatre textes, vous les verrez, ils sont du même ordre, ils sont manifestement, ça monte, ça nous dépasse. Et donc, on est presque obligé d'aller très lentement pour... ne rien perdre.
Mais aucun n'a existé de façon autonome.
Pour autant que je sache, il y a peut-être un problème pour un des trois derniers que je passerai. Mais je ne suis même pas sûr de ça. Hein, parce que il y a une difficulté au niveau des interprètes. Si l'interprète ignore ce que c'est que la poésie, il va trouver que c'est une addition, un ajout. Voilà. Mais s'il a un peu de culture... pour l'avoir pratiqué, voilà. Alors à ce moment-là, il se rend compte, on passe de la prose à la poésie, et c'est du normal. Oui. Je suis très prudent avant de trouver qu'un texte est une insertion ajoutée. Voilà. Je pense que quand ce n'est pas prouvé par un manuscrit, soyons très prudents. Voilà. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup sur les livres de sagesse. Ils sont tous de l'ordre de la poésie. Par conséquent, je me trouve bien, moi, ici. Je vous en prie.
Alors, je voulais vous poser une question sur la partie 2.
Oui.
Le verset 7.
Oui.
Il est marqué, elle excuse tout.
Oui.
Et parfois, c'est traduit, elle pardonne tout. Est-ce que vous faites une différence entre l'excuse?
Alors, littéralement, elle couvre tout. Littéralement, le mot grec, c'est stérei, je pense. Je peux l'avoir. Je l'ai ici, mais je peux vous le donner. Mais c'est l'idée de couvrir, voilà. Et autrement dit, je vois rien, quoi. on n'a pas une expression en français à peu près du même ordre.
J'ai rien vu,
voilà. C'est celle-là. J'ai rien vu. Oui, c'est vraiment ça. C'est très beau. Oui, 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 oui. Et aussi l'autre, si vous voulez, laisse tomber. La formule vient juste après, hein. Laisse tomber. Voilà. Alors autrement dit, mais elle ne tombe pas. Voilà. Alors il y a des formules, par exemple, celle qui est que j'ai traduite par la charité au verset 4, la charité rend service. On peut très bien comprendre aussi la charité est aimable. comme vous avez la charité et longanime, mais c'est les mots, les jeunes ne comprennent plus ça. Mais longanime, c'est un grand cœur. Il y a un grand cœur et en même temps, elle est aimable, elle est charmante, pas charmante non, parce que ça c'est l'idée de beauté. Mais l'amabilité, c'est d'abord de la politesse. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous n'avez pas l'expérience. Moi, ce qui ne suis pas lyonnais, je ne suis même pas français. Je suis à peu près, chaque fois que je fais un tour en ville, je me vais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, je rencontre toujours des gens que je n'ai jamais vus, que je ne reverrai plus jamais, mais d'une courtoisie. Oh, que c'est beau. Ça vaut la peine d'aller faire un tour rien que pour ça. Vous saluez quelqu'un, généralement une personne plus âgée, parfois surtout les mamans avec les petits. Ah, ça, c'est admirable. Oui, oui. C'est la culture, c'est voilà, la courtoisie. Je vous en prie.
Oui. La question de monsieur m'interpelle beaucoup et j'aimerais avoir effectivement votre avis. Parce que effectivement, sur certaines traductions, il est traduit elle excuse tout ou elle pardonne tout. Quelle différence vous faites entre l'excuse et le pardon? Ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse.
Ah oui. Merci. Alors, vous voyez, quand on a un mot, en général, ce mot, il est très difficile de le faire comprendre dans une autre langue. Voilà. Par exemple, ici, littéralement, d'abord, le tout est en tête. Tout, elle pardonne. Tout, elle excuse. Tout, elle couvre. Alors, couvrir, ça veut dire quoi? Si c'est couvert, je ne le vois pas. Donc, autrement dit, quand je comprends, elle ne voit pas, elle ne cherche pas à mettre au clair. Autrement dit, elle laisse tomber. Mais si elle laisse tomber, c'est pas parce qu'elle s'en fiche, c'est au contraire parce qu'elle pardonne, ou bien parce qu'elle excuse, excuser quelque chose ou pardonner. Voilà. Vous savez qu'en français, vous avez une double formule. Quand vous voulez laisser passer quelqu'un, et ce quelqu'un, quand il passe, il vous dit « excusez-moi ». Ou il vous dit pardon. Vous voyez la différence? Il n'y a pas de différence. Voilà. Vous dites pardon et puis vous passez. Ou bien vous passez et vous dites excusez-moi. Nous avons, c'est l'ambiguïté de notre langue, c'est tout. Mais autrement dit, n'y faites pas attention. Voilà, c'est tout. On ne s'est pas cogné, c'est pas mal. Donc, c'est toujours du passage d'une langue à une autre. Voilà. Voilà. Et là, je pense qu'on a ça dans toutes les langues. Oui, oui. Oui. C'est comme au début du chapitre 3, de la troisième partie, là. La charité jamais ne tombe. Alors, dans beaucoup de traductions, vous allez... Mais ils ne vont pas comprendre, donc on traduit « la charité ne disparaîtra pas ». Et puis, je vous ai dit, à l'inverse, au dernier verset, « puisqu'elle demeure comme la foi ». Donc, c'est demeuré. Autrement dit, ce n'est pas tombé. Ça tombe à l'eau. Moi, j'ai mis à l'eau parce que c'est une des formules les plus classiques qu'on a en français. Mais je pense que c'est toujours une difficulté. Mais alors, si vous regardez bien, il y a quand même entre « excuse tout », si vous le traduisez par « elle couvre tout » et puis « elle supporte tout ». Mais supporter, c'est-à-dire ne pas réagir, et autrement dit, laisse tomber. Et au milieu, vous avez « croit », c'est-à-dire qu'elle fait confiance aux gens et elle espère que les gens sont gentils. Voilà. Voilà. C'est très humain. Donc n'en faites pas une vertu théologale. Ça l'est aussi, bien entendu, mais c'est une vertu de courtoisie. Et je pense que, surtout avec toute la partie négative qu'il y avait là et qui manifeste le problème de la ville, de la communauté chrétienne de Corinthe, mais entre nous, c'est le problème de notre communauté, c'est toujours le même, vous savez, on n'a pas changé, on n'est pas meilleur que nos aïeux, hein, même si certains jeunes pensent qu'ils renouvellent le monde, c'est pas vrai. Ils seront aussi bons que nous, peut-être, ils seront aussi méchants que nous, oh, très probablement, aussi naïfs que nous, ça certainement. Mais vous voyez, il y a cette vertu positive de la confiance, la foi, croire les autres. Parce que ce sont des expressions que nous... Oh, ben je te crois qu'on dit à quelqu'un qui vous dit quelque chose. Je te crois. Je te crois sur parole. Ben oui. Mais ça, c'est de la charité, ça. Oui, oui. J'espère bien que vous dites ça aussi. C'est des mots qu'on emploie. Alors, soyez très concrets quand vous lisez les textes de la Bible. Très concrets. C'est idéal pour mettre ces textes-là dans votre vie, dans notre vie à nous. Voilà. Elle ne demande pas de garantie. Elle ne les demande pas, elle ne requiert pas les garanties. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as raison? C'est la façon dont nous parlons aux gens, hein, entre nous. Hein. D'où les disputes et les tensions hein, que nous avons. Oui. Mais donc c'est tout un travail qui, comme les Corinthiens, que nous devons pratiquer chacun pour nous. Hein. Puis vous savez, derrière ça, puisque Paul nous dit que c'est un... C'est quand même un don de Dieu. Hein. Il faut peut-être le demander tout simplement. Hein. Oui. Demandez, oui madame, je vous en prie.
Merci. Merci. Et vous avez dit au départ que la charité, c'est un engagement. Il faut la voir comme un engagement
oui,
des
oui,
deux
oui.
personnes.
Ce n'est pas essentiellement un sentiment affectif.
Voilà.
Ce n'est pas du sentiment. Ce n'est pas vrai, ça.
Et la
peut-être
charité,
que ça l'aura, mais oui.
Oui. Et la charité, vue comme ce qu'elle excuse tout, qu'elle est,
oui.
ça fait est quelque chose de, à part. Enfin, comment tricotez-vous l'engagement?
Oui.
Et le fait que ce soit une chose, quoi.
Mais c'est, que ce soit au niveau de l'engagement, par exemple, le fait d'excuser, c'est une attitude très concrète que vous prenez hein, vis-à-vis de quelqu'un qui vous dit quelque chose. Alors, au lieu de monter sur vos grands chevaux, vous couvrez.
Oui, oui, d'accord. Et comment elle reste, cet engagement, elle restera à la fin?
Mais d'une certaine façon, oui, parce que je veux dire que c'est permanent, ça ne tombe pas. Je veux dire que la charité pour Paul, ici, dans le texte du début de la troisième partie, finalement, c'est le seul moyen de construire une société de paix. Ben, vous savez, en Europe, ça nous est arrivé en 1945-1946, hein, avec Robert Schuman, Adenauer et l'Italien. Oui, de Gasperi. Ouais. On a reconstruit, et tous les trois travaillaient sur l'Évangile, hein, il faut le savoir, ça. L'Europe a été construite par des croyants, dont deux sont en procès de béatification. Hein. C'est-à-dire que, finalement, la charité, elle est constructive d'une société. Sinon, c'est une société qui s'entretue, c'est tout. Et vous avez eu le texte de Jésus l'autre jour, quand un royaume est divisé contre lui-même, il ne tient pas la route, hein. Donc la charité, c'est le seul moyen de maintenir une société vivante et aussi viable, je pense. Oui. Et dans nos familles, c'est la même chose. À l'intérieur d'une famille, si ce sont des disputes qui finissent par des mouvements de colère et de division, on va se séparer, un point c'est tout. Voilà. Et cela demande beaucoup de difficultés, beaucoup d'abnégation. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est marqué là, jalousie, vantardise, inconvenance, chercher son intérêt, entretenir la rancune et tout le reste. Voilà. Oui. Vous savez, à propos de n'entretient pas la rancune, on peut très bien aussi, c'est plus simple, c'est-à-dire, c'est le Gizetai Tod Kakon, elle médite le mal. Méditer le mal, c'est-à-dire, c'est de l'ordre de la rancune. Hein. Je te rôrai, comme on disait dans mon pays. Vous ne connaissez pas l'expression, non? Je te rôrai. Tu m'as eu, mais je te rôrai. Tu ne fais rien pour attendre, voilà. Voilà. Et alors, on cogite la façon dont je vais l'attraper. Voilà. Mais ça, c'est abominable, hein? Oui. Voilà. Je vous en prie.
Non, il y a des expressions aussi qu'on utilise parfois sans s'en rendre compte.
Oui.
On dit trop bon, trop couillon.
Ah oui.
Voilà, ou bien qui fait l'ange, fait la bête.
Ça, c'est déjà plus classique, ça, oui. Voilà. Oui, oui.
Du coup, c'est vraiment anti-évangélique.
Mais le premier, oui, oui, qui fait l'ange, fait la bête, c'est Pascal, ça, non? Oui, le premier, je ne sais pas. Oui, mais ce sont des expressions qui sont très réalistes. Hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il pense, là, le père, là, au bout, là? Merci. Il s'en va demain, il rentre demain, puis il va repartir bientôt au Congo, Kinshasa, là, oui.
Voilà.
Il a fait un mois chez nous, il va bien, vous savez, c'est un type bien. Thomas.
Merci bien. Vous avez parlé de la connaissance.
Oui.
En évoquant Moïse, à qui oui. Dieu a promis de parler, mais une connaissance qui, pour Dieu, est une manière pour lui se révéler.
Oui, exactement.
Donc, il reste partiel.
Oui.
Ben, puisque vous êtes bibliste, je profite de l'occasion pour poser la question à partir de ce que Saint Jean dit dans le chapitre 17e,
oui,
il dit
prière.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire,
oui.
Là voilà. Aussi, il est question de la connaissance.
Oui.
Mais alors, est-ce qu'on peut parler de cette connaissance de la même manière que quand il s'agit de Moïse, à qui Dieu se révèle, mais de manière tout à fait partielle aussi. Et quand on vient chez Saint Jean, chez qui nous apprenons que bon, la vie éternelle, c'est aussi la connaissance de Dieu, mais alors à ce moment-là, est-ce que c'est toujours Dieu qui se manifeste
alors,
de manière
voyez,
partielle
Alors, vous voyez, il faut bien vous mettre en tête que chacun des auteurs dans la Bible a sa propre culture et a son propre tempérament intellectuel, littéraire, etc. Ne vous étonnez pas, il y a différentes façons de parler du mystère de la connaissance. Voilà. Saint Jean, auquel vous faites allusion, c'est la prière de Jésus qu'il te connaisse. Ça, c'est un texte dans l'évangile de Jean qui doit dater de la fin du 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire 43 ans ou 45 ans après l'épître aux Corinthiens. Donc c'est une autre génération. Voilà. Et en plus de cela, le Saint Jean est surtout tellement méditatif qu'il est aussi dans l'ordre de la poésie méditative. Oui. Beaucoup moins qu'un évangile comme Matthieu, Marc ou Luc, qui sont de la prose, oui, avec des textes. Ouais. Alors, à ce niveau-là, par exemple, pour Moïse... je rectifie un peu ce que vous avez repris là. Oui. Moïse, c'est le Seigneur lui-même qui dit « Je ne lui parle pas en énigme, mais je lui parle face à face. » Le Seigneur ne dit pas « Il me parle face à face », non, « Je lui parle face à face ». C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui se révèle, et en disant « Je me révèle dans la clarté et pas dans l'énigme ». Donc ça, c'est ce que Moïse a vécu au Sinaï. Bon. Jean, il dit, nous le connaîtrons, la prière de Jésus, c'est qu'il te connaisse. Voilà. Et on voit bien que c'est le croyant qu'il connaît, c'est-à-dire quoi? Qu'il reconnaisse Dieu pour Dieu. Probablement que c'est ça qui est derrière, qu'il accepte de reconnaître Dieu comme Dieu dans ma vie. Or, pour saint Paul, c'est tout autre chose, c'est dans l'au-delà. Pour saint Jean, je pense que c'est sur terre encore, hein, que ceux qui ont mis leur foi en Jésus connaissent Dieu comme intention, dans le souhait, qu'ils puissent un jour connaître Dieu. Voilà. Pas nécessairement dans l'au-delà, mais c'est tout notre effort de prière, tout est bien de contemplation, de méditation, c'est celui-là. Mais pour saint Paul, c'est une connaissance que nous aurons, que nous recevrons dans l'au-delà de la mort. Et cette connaissance, c'est Dieu lui-même qui nous la donnera. Vous voyez que c'est comme Moïse, mais c'est l'inverse de Jean. Parce que Jean, c'est sur terre, et saint Paul, c'est dans l'au-delà. Et c'est de nouveau Dieu qui est le moteur. C'est lui qui agit. Et quand Paul dit « Je connaîtrai comme je suis connu », c'est parce que Dieu me connaît et il me fait connaître à moi. Alors probablement que nous pouvons avoir une certaine expérience sur terre en particulier dans l'ordre de la méditation, de la lecture de l'écriture, où finalement nous découvrons petit à petit ce à quoi nous sommes appelés comme êtres humains. S'il n'y avait pas l'écriture, je ne sais pas comment on ferait. Quand nous méditons, finalement, nous en arrivons à dire « cela me concerne ». Ce n'est pas seulement « ça me touche », parce que ça, c'est très affectif, c'est très dangereux. Ça. Pas dangereux, mais si, c'est, ça passe vite, tout ça. Mais quand vous commencez à dire « ben là, il faut que je fasse quand même un retour sur moi-même », que je me rende compte que je suis concerné par la parole. Voilà. Mais ça change tout dans nos vies, hein. Ça peut changer tout. Voilà. Et de nouveau, alors c'est la parole de Dieu qui nous touche. Nous sommes les récipients. Nous sommes ceux qui reçoivent et pas ceux qui donnent. Je pense que la lecture de l'écriture, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. C'est se mettre à l'école, c'est écouter. C'est le mot le plus classique dans les textes bibliques. Écoute, écoute Israël, schéma Israël. Voilà. Ça va? C'est un peu plus clair? Et même pour vous autres, oui, allez-y.
Je voudrais que vous reveniez un petit peu sur le début de votre propos, la définition de l'agapé. Parce que
oui.
Donc vous avez, j'ai bien entendu cette dimension non affective. Mais vous avez
c'est
dit
pas
que
c'est... l'affective voilà. qui est l'essentiel, c'est ça
voilà.
que je veux dire.
Voilà. Mais vous avez dit aussi que c'était plutôt... une action du supérieur vers l'inférieur.
Oui, oui.
Mais l'exemple que vous avez pris, c'est l'inverse. C'est l'exemple d'un vassal vers son suzerain.
Oui,
ça me trouble un peu.
Oui, je comprends bien. Alors, l'idée que ça vient d'en haut, on la retrouve chez Aristote. Par exemple, Aristote qui n'emploie pas agapé, mais agapé 6 ou bien agapao, le verbe. Et alors là, l'exemple typique, c'est la maman vis-à-vis de son petit. Et ça, manifestement, c'est d'en haut. Oui, oui, voilà. C'est d'en haut que ça vient. D'où la nécessité pour vous savez, dans le concret de nos vies, c'est celui qui a les moyens vis-à-vis de celui qui n'en a pas. Ouais. C'est-à-dire, ce sont tous les actes de bénévolat, tous les actes d'acceptation. Nous avons ici le Jesus Refugee Service, c'est ça qui est derrière. Et l'accueil de celui qui n'en a pas les moyens. Quand vous êtes dans votre pays, à l'étranger. Oui. Et d'où, dans la Bible, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Hein? Oui. On ne le dit pas souvent, mais c'est quand même dans le même chapitre où on a « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ton prochain, ça peut être très bien l'étranger. Hein? Voilà. Et on sent que dans nos sociétés, c'est un réel problème. Hein? C'est violent, comme on le dit, hein? Parce qu'on est très loin. Oui, oui. Alors, là, je pense que c'est le sens. Alors, l'autre sens, c'est celui de l'engagement, dont je dis y compris dans l'engagement du mariage. Voilà. L'engagement du mariage, c'est pas le jeune homme qui dit à la jeune fille, je t'aime beaucoup, et la jeune fille, mon chéri, je t'adore. Le problème, c'est pas ça, c'est tu t'engages comme ça. Hein. Donc, le problème de la fidélité. Oui. Voilà.
Vous trouvez qu'on a raison de lire ce texte au mariage?
Ah, celui-ci, oui. Oui, le problème, ça va trop vite et ça leur passe comme ça. Ah non, ils ont raison. Non, non, ça c'est sûr. Parce qu'en général, si on fait bien attention, s'ils sont aussi bien encadrés, ce texte, ils vont revenir dessus après. Oui. Et je me rappelle avoir célébré un mariage, plutôt le 50e anniversaire d'un mariage chez un de mes cousins en Belgique. Il a repris la liturgie de leur mariage. C'est admirable, hein. Donc, autrement dit, ils n'avaient pas oublié, ils avaient noté, et ça les avait marqués, oui. Parce que c'est un très beau texte, oui, c'est sûr, ça. Oui, oui. Bien, nous en restons là. Je vous remercie beaucoup. La semaine prochaine, c'est...